Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Nouvel épisode de notre balado, enregistré à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, dans la foulée de l'émission La France dans les yeux, avec Marine Le Pen. Enregistrement avec Jérémy Trottin, le chef du service politique de RMC, qui était avec moi sur le plateau. Et Loïc Besson, qui suit pour le service politique la campagne de Marine Le Pen. Nous sommes le jeudi 24 mars, à 32 jours du choix des Français. Salut à tous les deux.
Salut Philippe.
Salut Philippe.
Alors je crois que ça va résonner un peu cet épisode parce que nous sommes, il faut dire où nous sommes dans les vestiaires de la salle François Mitterrand, qui est une salle omnisport de Hénin-Beaumont, et précisément près des douches, donc il y a plein de carrelage autour.
C'est toi qui es près des douches.
Oui, hein. je suis près des douches en fait. Et pourquoi nous sommes là? Parce que donc c'est dans cette salle, c'est cette salle qu'avait choisi Marine Le Pen pour la France dans les yeux ce soir. C'est la salle où elle... organise parfois d'ailleurs des soirées électorales pour les législatives. Je crois d'ailleurs qu'elle était ici pour le premier tour en 2017. Et peut-être, qui sait, si elle est élue présidente de la République le 24 avril, peut-être c'est ici qu'elle prononcera son premier discours de présidente dans cette salle, François Mitterrand, à Hénin-Beaumont.
Sachant que c'est aussi un bureau de vote.
C'est aussi un bureau de vote. D'accord, il se passe plein de choses ici. Donc, Jérémy, c'est la première fois que tu participes à ce podcast. Ouais, t'es impressionné,
très,
non?
Très honoré.
T'es très honoré. C'est ça. et toi, Loïc, on a fait pas mal d'épisodes sur Marine Le Pen. Donc toi, Loïc, t'étais dans les coulisses pendant l'émission.
Ouais.
Et Jérémy, t'es sur le plateau, dans une sorte de parfois de face à face ou de jeu
de
pas de deux avec Marine Le Pen.
Et voilà. De regard.
Toi, Loïc, parce que finalement, nous, dans l'émission, on a parfois du mal à voir, à prendre un peu de recul. Qu'est-ce que tu as pensé de l'émission et de Marine Le Pen dans le contexte où on est là maintenant, c'est-à-dire à moins de trois semaines du premier tour et au moment où elle semble être en passe d'être qualifiée pour le second tour? Qu'est-ce que tu as pensé de cette émission?
Je crois que ça a été un peu un diesel. J'ai vu Marine Le Pen quelques secondes, quelques minutes avant le début de l'émission. Elle était quand même très stressée.
Ah bon?
Parce qu'elle ne veut jamais vraiment le montrer. Mais elle stresse toujours lors des grands rendez-vous comme ça parce qu'elle fait tellement une campagne lisse, entre guillemets, sans vague, qu'elle a peur du moment où il peut y avoir un dérapage, une polémique qui pourrait alimenter cette campagne dans le sens qu'elle ne voudrait pas. J'ai senti très stressé, et puis ça a commencé sur peut-être le sujet où elle est le moins à l'aise actuellement, c'est sur l'Ukraine. Et,
ouais.
Voilà, elle était peut-être plus molle sur l'Ukraine, et puis ensuite il y a eu le pouvoir d'achat où là c'était plus son sujet, elle maîtrisait plus, mais.
Tu l'as trouvé très stressée, toi, Jérémy?
En fait, je l'avais vue aussi juste avant le début de l'émission et elle nous a confié qu'elle avait fait la sieste.
Oui.
Parce qu'elle a quand même commencé sa journée en arrivant à Hénin-Beaumont, enrhumée,
avec
fatiguée, réclamant un fauteuil très confortable pour cette émission. Et finalement, une fois qu'elle était montée sur le ring, Marine Le Pen était sous une forme de tension et elle ne s'est jamais assise. Donc
ouais.
En fait, c'est marrant parce que ces campagnes électorales, ce sont de longs marathons pour les candidats avec par moments des sprints, et elle a fait un sprint de 2h20. Elle ne s'est jamais arrêtée ce soir. Elle a mis une forme de tension dans cette émission et c'est ce qui m'a sans doute le plus marqué ce soir.
Oui, et puis c'était la quatrième émission, on a fait la même émission avec Valérie Pécresse, puis Éric Zemmour, puis Jean-Luc Mélenchon avant celle de Marine Le Pen ce soir. Et je trouve que c'est celle qui a été le plus... je ne parle pas du fond et ce qu'on pense, des propositions des uns et des autres, mais je pense que sur l'exercice de devoir répondre pendant comme ça 2h20, 2h30 aux questions de Français sur des sujets très divers, je trouve que c'est celle qui a été la plus solide et la plus endurante, parce que c'est vraiment... les autres avaient tous eu des moments où on les sentait plus en difficulté ou plus faible ou ayant pas su saisir un moment. Là, je pense pas qu'elle ait raté beaucoup de moments et je trouvais qu'elle était paradoxalement, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai trouvé que l'un des moments où elle était le moins efficace dans ses réponses, c'était dans les réponses sur la sécurité.
Oui, parce que c'est vrai qu'elle a oublié finalement presque la sécurité dans le cadre de cette campagne 2022,
ouais.
Ce qui n'était pas du tout le cas en 2017, où la France avait été marquée par les attentats de 2015, où c'était très centré sur l'antiterrorisme et la sécurité. Et c'est vrai que 2022 n'est pas du tout dans le même contexte, il y a beaucoup une question qui soit économique, pouvoir d'achat ou relations internationales. Et finalement, elle a été contrainte par nos questions de revenir sur un sujet qu'elle a laissé un petit peu en jachère ces dernières semaines ou ces derniers mois au profit d'Éric Zemmour. Donc, elle est tombée finalement dans une forme de surenchère aussi, de déclarations pas toujours maîtrisées et assez virulentes en disant, bref, on ne peut pas me faire ce procès-là, vous n'allez quand même pas me faire ce procès-là à moi, Marine Le Pen.
Oui, mais c'est bizarre comme argument parce que c'est en gros avec ce que je dis depuis 20 ans, avec ce que mon parti depuis 40 ans, je n'ai pas à, d'une certaine manière, les Français savent ce que je pense là-dessus. Mais je trouve que c'était assez étrange comme argumentation. Mais
ça révèle aussi qu'elle a tellement vécu ça comme un complexe de 2017, d'être accusée de ne pas être à la hauteur, de ne pas maîtriser vraiment les dossiers, que c'est vrai, tout le monde le souligne, quels que soient les secteurs, elle a bossé en 5 ans ces dossiers, et c'est justement ça qu'elle veut montrer, qu'elle veut mettre en valeur, que ce soit sur l'économie, que ce soit sur les questions éthiques aussi, quitte en effet à même plus appuyer, même plus expliquer son programme sur la sécurité, sur l'immigration, parce qu'elle estime que c'est pas sur ces sujets-là qu'elle doit convaincre aujourd'hui. Donc je pense que c'est ça que ça démontrait aussi ce soir.
L'échange le plus vif, enfin d'ailleurs c'était pas vif parce que c'était tout à fait courtois et argumenté, mais l'échange qui était peut-être le plus tendu, c'était avec un médecin. C'est-à-dire qu'elle avait d'abord parlé avec une infirmière, plutôt une puéricultrice, qui ne pouvait plus travailler parce qu'elle avait refusé de se faire vacciner. Et ensuite, donc, il y avait un médecin qui, en gros, lui reprochait de ne pas avoir suivi la science et d'avoir eu des positions sur le Covid et la gestion du Covid qui n'était pas, selon lui, fondée par des raisons scientifiques. Bref, il y avait une argumentation là-dessus, mais elle était... Elle ne s'est pas laissée démonter, ça a duré assez longtemps d'ailleurs cet échange.
Oui, lui était plutôt basé un peu, enfin il avait préparé cette intervention.
Oui, très préparé.
On l'avait senti, on l'a rappelé ce soir parce que ce n'est pas un secret, c'est un électeur d'Emmanuel Macron.
Oui, il l'a dit,
Elle le savait aussi et elle a privilégié un petit peu la forme du bon sens face à la science.
Oui, c'est ça.
Et c'était un petit peu ce match auquel on a assisté, la science face au bon sens, notamment sur la question de la vaccination des jeunes enfants. C'est la mère de famille qui a parlé face au médecin et c'est vrai que, en fait, le médecin peut poser souvent un diagnostic sur une situation. Il est parfois pas spécialement accepté par le patient. Ouais. Là, ce qui était intéressant, c'était que d'un côté, vous avez le médecin et la candidate à la présidentielle et ils n'étaient pas d'accord parce qu'en fait, ils venaient un petit peu perturber tout ce qu'elle avait construit autour de ce vaccin qui, selon elle, n'est pas efficace. Pourquoi pas assez efficace parce qu'il n'empêche pas les contaminations, tout le monde le sait. Donc en fait, il venait un petit peu contrecarrer tout son argumentaire, qui est un argumentaire aussi lié à son électorat, qui est très sensible à ce type de sujet. Donc ce qui explique qu'il y avait une forme de tension mise à la fois par Marine Le Pen mais par le médecin, on peut pas dire le contraire.
D'ailleurs elle l'a explicité, elle a dit vous êtes peut-être médecin mais moi je suis maire de maire de famille, et j'en ai souvent parlé avec elle de ces sujets là parce que c'est vrai qu'elle est, pour le coup, elle est totalement à contre-courant de l'opinion qui est largement favorable au pass, au vaccin, à la politique vaccinale, mais à la limite elle préfère assumer de ne pas être majoritaire sur ce côté là mais de privilégier ce qu'elle met aussi en avant dans cette campagne, c'est la constance de ses positions. Donc Marine Le Pen, elle reste sur le côté anti-vaccination obligatoire, anti-pass sanitaire, anti-pass vaccinal. Et là-dessus, quand bien même elle sait que ce n'est pas spécialement populaire, elle campe sur ses positions.
C'est plus compliqué à elle de tenir finalement ce discours parce qu'elle n'est pas contre le vaccin.
Oui, c'est ça. Elle dit même j'ai été vacciné 3 fois.
Elle est sur un fil et ça la poursuit un peu dans cette campagne parce que d'un côté... En fait, Marine Le Pen, elle est pour le vaccin quand il est utile et pour elle, elle est clairement vaccinée. En revanche, elle a sa clientèle électorale qui est beaucoup plus réticente. Donc en fait, tout son enjeu ces derniers mois, c'était de trouver cette position d'équilibre et elle a été un petit peu perturbée ou un petit peu challengée par ce médecin ce soir.
Il y avait aussi un autre échange qui a été un peu vif, là aussi avec des guillemets. C'était avec une jeune femme qui était étudiante en droit à la Cato de Lille et qui l'interrogeait sur les conditions pour devenir français. Et elle disait, mais sur quels critères ?
Objectif.
Oui, c'est ça. Quel était le débat parce que Marine Le Pen disait la nationalité, ça s'hérite ou ça se mérite. Et donc, cette étudiante, qui donc est juriste, qui était en master de droit, disait mais c'est quoi le mérite, sur quels critères vous jugez le mérite. Donc il y avait un débat presque juridique entre l'avocate et l'étudiante en droit.
Et un dialogue de sourds quand même.
Oui, absolument.
Parce que, et puis j'ai reparlé avec Maria, elle s'appelle, cette jeune fille après, qui dit bah moi j'ai toujours pas eu ma réponse, j'ai toujours pas eu de réponse claire. Et Marine Le Pen estime lui avoir donné une réponse claire en disant bah mériter, ça veut dire respecter les lois, respecter la Constitution. Ouais. Bon, c'était un peu le dialogue de sourds.
Bon, en fait, l'échange le plus vif, il faut le dire, c'était avec Jérémy Trottin. Ou plutôt les échanges. C'était une sorte de suite dans la soirée où, à plusieurs reprises, vous avez échangé de façon un peu... C'était un peu tendu, non ?
Oui, c'était un peu tendu parce que je pense que sur la question du gaz russe, en fait, elle est bloquée. C'est-à-dire que tout le monde aimerait se passer, bien sûr, de cette dépendance au gaz russe. Elle, sans doute, la première, pour une question de souveraineté, parce que ça touche aussi à ses concepts politiques. Mais dans les faits, ça aurait des conséquences sur le pouvoir d'achat des Français, et donc c'est bloquant. Et elle le sait éperdument, donc elle essaye de garder sa position. Donc moi, j'insiste en lui disant « Mais attendez, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce foutu gaz russe ?» Et elle est bloquée, donc elle essaye par moments de repartir sur le nucléaire, les EPR...
Mais bref, Monsieur Trottin, laissez-moi finir, Monsieur Trottin.
Elle est sortie possible, inimaginable, elle ne peut pas répondre à la question. Et au final, on n'a toujours pas la réponse.
Non, et c'est un peu particulier comme dispositif d'émission, parce que c'est une émission de dialogue entre les Français, entre des Français et un candidat. Nous, on est là, mais on n'est pas central dans l'émission, et donc c'est pas une interview. Et donc moi, j'avais vécu la même chose dans l'émission avec Jean-Luc Mélenchon, qu'à un moment donné, il se décide de taper. c'est assez facile pour le candidat dans cette situation-là. De taper sur le journaliste qu'il a et puis taper dessus comme un sourd.
En plus, je pense qu'ils sont très préparés sur les questions des Français.
Exactement.
Et en fait, on vient perturber le jeu.
Oui. Encore un idiot de journaliste politique qui pose une question au journaliste politique.
Mais c'est pas le concept de l'émission.
Non, bien sûr.
C'est la France dans les yeux. Donc, ce sont des Français face aux candidats à la présidentielle. Et eux, ils se sont préparés. Et nous, on vient un petit peu perturber le jeu.
Mais on est les moules du coche.
Avec Philippe et avec nos questions qui sont plus précises. Que les Français, parce que c'est notre rôle, mais en fait on a un rôle un peu de poil à gratter, assumé complètement, mais qui est difficile pour eux d'assimiler, parce qu'ils sont dans un autre exercice sur la longueur, et on vient en fait perturber un petit peu toute cette narration, cette préparation, ce qui est plus difficile pour eux. Et c'est vrai qu'on ne parle pas aux Français comme on parle à des journalistes. Elle n'a pas été aussi virulente à l'égard d'un certain nombre de personnes qu'elle avait face à elle, à des Français qui n'avaient pas du tout ses positions politiques, qu'elle a pu avoir avec moi aujourd'hui ou avec Philippe, et ça a été la même chose pendant ces dernières émissions, ou qu'elle peut avoir aussi face à des entretiens purement politiques. C'est vrai que là, ça donne un petit peu de sel à cette émission. Et c'est toute la différence, il faut quand même le noter, avec ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui dans cette campagne.
Absolument.
Avec finalement des émissions que lui-même programme face aux Français, produit par les amis d'Emmanuel Macron.
Tu veux dire Poissy,
à
Pau,
Poissy, où en fait il n'y avait pas ce jeu journalistique qui est complémentaire.
C'est pas un jeu, ce travail.
Ce travail journalistique qui est complètement complémentaire avec l'exercice de cette ces questions entre les Français et le candidat.
Et en même temps, avec un bémol quand même, je pense qu'elle était bien contente et elle sait le saisir quand il y a des questions plus journalistiques, entre guillemets,
absolument.
Notamment ta question, Philippe, sur la position d'Éric Zemmour sur la remigration.
Oui.
Elle a clairement saisi la perche pour... Pour lui taper dessus, pour envoyer des mots.
Je pensais qu'elle allait un peu noyer le poisson, et non seulement elle n'a pas noyé le poisson, mais elle a bien coulé le responsable puisqu'elle a bien expliqué comment est-ce que c'est un ancien du FN, Jean-Yves Le Gallou, qui avait quitté le FN il y a très longtemps, c'était l'époque de Jean-Marie Le Pen. Je crois d'ailleurs que Jean-Yves Le Gallou était parti chez Maigret. Et donc c'est Jean-Yves Le Gallou qui est, selon elle, responsable de cette formule de rémigration qu'il a vendue à Éric Zemmour. Je voudrais vous soumettre un message que j'ai reçu pendant le générique de fin de quelqu'un que je connais qui était notamment dans des cabinets de ministres importants sous le quinquennat de François Hollande. Quelqu'un qui me dit, après avoir vu l'émission, elle est devenue très forte, elle est en situation de gagner. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous dites après cette émission ce soir ? Oula. Mon enregistreur est tombé par terre, mais il fonctionne toujours. Est-ce que vous vous dites, après l'émission ce soir, Marine Le Pen peut être présidente de la République dans 5 semaines.
Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, c'est ce moment où elle dit « si le peuple vote, le peuple gagne ». Et tout son enjeu ce soir, c'était de mobiliser, surmobiliser son camp face notamment à Éric Zemmour. Et elle savait précisément que c'était sa mission ce soir. Ce n'est pas par hasard que Marine Le Pen a choisi cette date, parce qu'en réalité, elle est la dernière à intervenir dans cette émission face aux Français. Sans trahir de secret, c'est elle qui a choisi de la faire au plus tard dans la campagne. Donc il y avait sans doute un enjeu stratégique pour aller chercher justement le vote des électeurs du Rassemblement National qui lui ont manqué notamment lors des dernières régionales. Et on voyait bien qu'en fait, plus l'échéance se rapproche, plus elle, son enjeu, c'est d'aller mobiliser les siens. Et ce qu'elle dit par cette phrase, si le peuple vote, le peuple gagne, elle n'a pas tort. Donc, c'est difficile de faire des pronostics.
Est-ce qu'elle peut être présidente dans 5 semaines?
Au vu de ce qu'elle a, de la prestation de ce soir, je suis pas convaincu.
Et toi, Loïc, qui suit la campagne de Marine Le Pen, qui va sur tous les déplacements partout, tout le temps avec elle, est-ce que dans 5 semaines, elle peut être présidente?
Je ne m'avancerai pas personnellement, mais pour être honnête, c'est
non,
vrai
je dis pas un pronostic, mais est-ce que c'est une possibilité?
Par définition, tout est possible. Mais c'est vrai que ce qu'on entend de plus en plus, des gens qui se disent aujourd'hui, en effet, maintenant, il semble qu'elle a l'étoffe. Je l'ai encore entendu ce soir en parlant après l'émission avec quelques personnes du public
Français,
qui l'ont interpellée, qui n'étaient pas spécialement pour elle, mais qui disent oui, enfin, elle a quand même l'étoffe. Et c'est ce qu'on entend le plus. Et c'est là-dessus qu'elle travaille, sur la normalisation. On le voit avec une position complètement légitimiste par rapport à vis-à-vis d'Emmanuel Macron sur la guerre en Ukraine. Ça, c'est très important, surtout en ce moment, parce que c'est un sujet. Et elle a été interrogée, et je pense qu'elle n'était pas mécontente d'avoir cette question sur quelqu'un qui a souhaité la titiller en disant « Mais comment demain vous pouvez gérer un pays alors que vous n'arrivez pas à gérer votre parti ?» en faisant référence à toutes les défections. Elle était très contente de cette question, je pense qu'elle avait préparé la réponse, mais elle a dit « Mais ça devrait vous rassurer justement toutes ces défections.
Oui. »
Encore une fois, ce n'est pas nouveau ce discours-là, mais tous ceux qui sont partis, ce sont des tarés, pour employer le mot qu'elle utilise souvent en privé, et toujours dans cette volonté de rassurer et de se normaliser comme une femme d'État. C'est comme ça qu'elle se présente, c'est son slogan et c'est ce qu'elle souhaite montrer.
Oui, la question d'Océane était intéressante ce soir, mais elle n'y a pas complètement répondu.
Non.
C'est-à-dire qu'elle est en train de dire qu'elle n'excusera pas et qu'elle ne pardonnera pas. C'est-à-dire que la politique, c'est pas une histoire de... Voilà, elle ne fera pas de cadeau à ceux qui ont quitté son parti en pleine campagne électorale, alors que ces derniers ont été finalement élus sur l'étiquette du Rassemblement National. Elle a fait comme une forme peut-être de petite exception pour Marion Maréchal. Mais ce
et
qui rend en fait...
des mots encore durs ce soir.
Mais ce qui rend en fait les perspectives de voir un gouvernement autour de Marine Le Pen extrêmement réduites. Parce que quand Philippe, tu lui poses la question à plusieurs reprises sur qui sera votre ministre des Affaires étrangères, on sait qui sera pas.
Pas Marianne.
On ne sait pas qui ça peut être. Le ministre de l'Intérieur, c'est pareil. Elle sait qui c'est, mais c'est qui, elle ne le dit pas. Le Premier ministre, encore moins. Donc en fait, aujourd'hui, on a une candidate, visiblement une bonne candidate de second tour. Elle a encore un certain nombre de limites, et notamment sur cette capacité à des Français à pouvoir projeter Marine Le Pen à l'Élysée avec une équipe à Matignon et dans les ministères. C'est encore une des limites de la candidature de Marine Le Pen, je pense.
On a fait je ne sais pas combien d'épisodes, Loïc et moi, avec Loïc, sur Marine Le Pen depuis la fin de l'été. Et on a souvent dit à quel point elle nous a surpris par sa résilience ou sa capacité à encaisser, à survivre à la tempête qui a été la tempête
Zemmour.
Et à maintenir le cap. Et on l'a souvent raconté. Et alors ce qui m'a frappé ce soir, ou plutôt ça confirme, il se trouve que ça fait en un mois, en moins d'un mois, ça fait trois fois que je participe à une émission avec elle. J'ai fait une fois une interview en tête-à-tête, une fois face à BFM, et là ce soir La France dans les yeux, et trois fois, et particulièrement ce soir, j'ai été à chaque fois surpris de me dire à quel point elle était solide et d'une certaine manière en confiance. Et ça, c'est une grande différence avec par exemple Valérie Pécresse dans le même exercice, avec Éric Zemmour dans le même exercice, qui sont pas du tout dans cette forme de cohérence personnelle et politique. Je ne sais pas si elle peut gagner. En tout cas, je me dis que si dans 5 semaines maintenant, Emmanuel Macron est réélu avec Marine Le Pen à 45, 46, 47%, ça restera malgré tout un fait politique majeur, non seulement une campagne réussie pour Marine Le Pen, mais un fait politique majeur. Qui aura des conséquences profondes dans le débat politique en France.
Et ce qui pourrait lui permettre de lui donner une légitimité, ça serait reparti pour un tour, elle se représenterait à la députation dans le Pas-de-Calais, ici.
Ici, dans sa circonscription.
Et pourquoi pas à la présidentielle de 2027. C'est vrai que dès lors qu'elle, si elle fait un score autour des 45% face à Emmanuel Macron au second tour, c'est quand même un exploit. On parle quand même de la candidate du Rassemblement National et ex-Front National.
Moi, la question que je me pose, c'est si cette campagne de 2022 est vraiment une campagne pour la gagne ou une campagne pour effacer un petit peu, je mets des guillemets,
l'humiliation
du débat d'entre-deux-tours de 2017. Toute la stratégie qui a été établie par la candidate et son entourage ces dernières années, ça a été justement d'effacer un certain nombre de scories, de faire oublier certaines déclarations, et notamment ce fameux débat face à Emmanuel Macron, qu'elle a encore dit ce soir à reconnaître qu'il était complètement raté. Donc moi, la question que je me pose, c'est si cette campagne de 2022, elle est faite pour la gagne ou elle est faite pour effacer finalement l'humiliation de 2017, avec peut-être en effet une nouvelle échéance en 2027. Elle a évoqué déjà la question de 2027 ce soir en disant que dans le camp patriote, chez Zemmour, ils étaient plutôt en train de préparer une autre échéance que celle-là. Je ne sais pas si Marine Le Pen pense pouvoir réellement l'emporter en 2022, mais connaissant son sens politique, je m'interroge.
Bon, si vous écoutez pour la première fois ce podcast, c'est que vous découvrez Jérémy Trottin. Jérémy Trottin est chef du service politique de RMC, donc vous pouvez l'entendre sur RMC. Et puis pour
tu as
pas
expliqué pourquoi tu l'avais appelé Baba.
Oui, alors voilà, je l'ai appelé Baba parce que dans la foulée,
pendant l'émission,
la directrice de la communication de Marine Le Pen, dans un des moments assez vifs, a fait une capture d'écran des échanges entre toi et Marine Le Pen. Et elle disait quoi ? Je remplace...
Trottin par Baba.
Trottin par Baba, parce que la semaine dernière, elle a fait l'émission de Cyril Hanouna face à Baba, où disons que Cyril Hanouna était plus cordial avec Marine Le Pen que tu l'étais dans ces quelques moments d'interview. Mais la différence, c'est que Cyril Hanouna est un animateur et accueillait une invitée, et toi, tu es journaliste et tu lui poses des questions.
Je pense dans mon rôle ce soir.
Voilà, c'est un peu la différence. Bon, on se refera un épisode dans quelques jours. Elle part en Guadeloupe, là, c'est ça ?
Elle part en Guadeloupe ce week-end, oui. Express, 24 heures sur place.
Oh, c'est dur hein, d'être journaliste politique en campagne. Tu dois aller en Guadeloupe.
J'aurais pas le temps de me baigner, c'est la question.
Mais la dernière fois qu'on a fait un épisode, quand tu étais en déplacement outre-mer avec elle, tu avais prétendu que tu n'avais pas eu le temps de te baigner.
Ne jamais oublier sa
son
crème
maillot de bain
solaire.
Quand on est en campagne.
Non, sa crème solaire, quand on est journaliste politique, ça peut paraître un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup.
Bon, j'espère que ça aura été audible malgré tout avec ce son de vestiaire.
Ça fait partie de l'ambiance.
Mais oui, c'est ça. Dans cette salle François Mitterrand de Hénin Maumont. Et si Marine Le Pen est élue présidente de la République dans 5 semaines, peut-être donc cette salle François Mitterrand de Hénin Maumont restera dans l'histoire. Et pas seulement pour ce moment d'échange avec Jérémy Trottin.
Merci Philippe pour cette invitation, cette immersion dans votre podcast.
Bonne nuit, parce qu'il est presque 1h du matin. D'avoir suivi cet épisode. À demain.